Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Une émission composée d'un plat du jour et d'une madeleine. La madeleine, c'est le souvenir gustatif d'une personnalité souvent issue du monde culturel. Bonjour Matteo Caranta.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Qui aurons-nous le plaisir d'écouter à 12h15 ?
Ce sera la chanteuse et interprète Olivia Ruiz tout à l'heure.
À tout à l'heure. Rien à voir avec notre plat du jour, cette madeleine, quoique nous verrons. Notre plat du jour consacré ce midi au métier de boulanger. Parce que figurez-vous que si la consommation de pain des Français est en baisse, comme nous le rappelait à ce micro l'historien Steven Kaplan en mars 2020, cette consommation se diversifie. En 2021, les trois critères d'achat du pain sont le goût, la fabrication traditionnelle et la fraîcheur. Comme si les Français voulaient retrouver le bon pain d'antan, remplacé depuis longtemps par un pain blanc, industriel, peu aromatique et souvent bourré d'additifs. Du côté professionnel, parmi les projets de reconversion, la boulangerie arrive en deuxième position. Et depuis 5 ans, on voit fleurir des boulangeries, et pas seulement dans la capitale, qui travaillent le levain, qui travaillent la fermentation longue. Alors est-ce que c'est une façon de sortir du pétrin une profession durement éprouvée par le confinement et de réinventer la boulangerie? C'est ce que nous allons voir ce midi avec nos trois invités. Erwan Blanche, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de la boulangerie Utopie qui se situe à Paris dans le 11e arrondissement, co-auteur avec Sébastien Bruno du livre Utopie, 80 recettes faciles et créatives de boulangerie-pâtisserie qui vous feront rêver aux éditions Solar. Joël Defive est avec nous, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ici. Vous êtes compagnon boulanger, meilleur ouvrier de France, ex-chef exécutif des boulangeries Thierry Marx, et vous avez ouvert en septembre 2021 une boulangerie-pâtisserie dans le quartier des Batignolles à Paris, la boulangerie Baptiste, du nom de votre fils.
Le prénom de mon fils, oui.
Et depuis Marseille, parce que ce n'est pas à Paris, je le répète, que cette boulangerie ou néo-boulangerie est active, nous avons une boulangère, parce qu'il n'y a pas seulement que des boulangers hommes, il y a aussi quelques boulangers R. Boulangère, bonjour Marie-Christine Aractinghi.
Bonjour.
Merci beaucoup de participer à cette émission. Vous êtes donc depuis Marseille. Je dis Marie-Christine Aractinghi, mais alias Dame Farine, qui est le nom de votre boulangerie. Et d'ailleurs, Marie-Christine Aractinghi, vous êtes l'incarnation de ces reconversions, puisque vous êtes devenue boulangère, je crois, hein, à un an de passer l'agrégation de lettres. Qu'est-ce qui vous a pris ?
Qu'est-ce qui m'a pris ? J'étais étudiante en littérature et j'étais tout à fait passionnée par ce que je faisais. Il y avait aucun dégoût ou rejet du monde intellectuel à ce moment-là, du moins. Et puis, je me suis amusée à faire une pâte à pizza et à découvrir que la pâte, le toucher de la pâte, la sensualité de la pâte avait quelque chose de concret, extrêmement satisfaisant. Et voilà, à partir de là, je suis tombée dedans.
Vous êtes tombée dedans. Erwan, vous êtes tombée dedans. Vous avez fait une formation de pâtissier à l'école Ferrandi, mais Utopie n'a ouvert qu'en 2014.
Exactement, ouais. Non, à la base, avec Seb, on est tous les deux pâtissiers. On s'est rencontrés sur les bancs de l'école et on s'est retrouvés il y a 7-8 ans maintenant sur Paris tous les deux, après quelques voyages ou des expériences professionnelles, et on s'est dit ça peut être cool de monter un projet ensemble. On a réfléchissait depuis pas mal de temps et on s'est dit que la boulangerie, ça serait vraiment super sympa parce que c'est un commerce de proximité et ça nous permettrait justement de découvrir un nouvel univers qui était celui du pain et de la boulangerie.
Et vous faites aussi des pâtisseries.
Exactement.
À Utopie, hein, il n'y a pas que du pain.
On fait du pain, de la pâtisserie, de la viennoiserie.
Vive les commerces de proximité, c'est aussi votre cas, Joël Defive. Sauf que vous êtes boulanger, j'ai envie de dire depuis toujours. Vous avez eu votre CAP, oui, en 1982.
Oui, alors moi j'ai voulu faire ce métier dès l'âge de 7 ans. Ça a vraiment été quelque chose qui m'a passionné. J'étais un enfant plutôt renfermé, timide. Et je me suis dit, travailler la nuit, ça va me permettre de ne pas être au contact des autres. Et puis, je voulais aussi m'en sortir socialement parce que, bon, j'étais orphelin de bonheur et peut-être un peu maltraité à l'école. Hein. Je suis dyslexique, et mais je l'ai su que bien des années plus tard. Et de pouvoir travailler la nuit, voilà, ça me permettait de pas avoir ces souffrances que je trouvais la journée. Et puis aussi ce côté mystérieux de travailler la nuit, d'être un peu à part. Voilà, j'étais un rebelle, mais un rebelle gentil parce que je savais qu'il fallait gagner sa vie pour évoluer dans l'avenir. Voilà.
Alors vous qui avez le regard long, sur la longue durée, j'aimerais bien savoir comment vous regardez tous ces nouveaux boulangers, ce mouvement de résistance au pain industriel, dont vous faites partie d'ailleurs avec tous vos pains.
Alors,
à vous.
Moi, j'ai commencé la boulangerie à une époque où la boulangerie était mal vue. On faisait boulanger parce qu'on ne pouvait rien faire d'autre. Et aujourd'hui, au contraire, je suis vraiment passionné quand je vois des gens qui ont fait des belles études et qui viennent dans ce corps de métier, parce que ça apporte une nouvelle philosophie à ce métier, une nouvelle aura, et c'est vraiment très très bien pour la profession. La profession de boulanger a évolué dans le temps d'une belle manière, parce que moi j'ai connu les époques, j'ai commencé fin des années 70, où on ne faisait que du pain blanc, du pain très pétri, hein, le pain de campagne c'était la même chose, mais avec un peu de farine dessus, c'était juste, mais c'était le pain de l'époque.
Et maintenant ça n'est plus le pain de l'époque, le pain blanc alors
maintenant,
c'est fini ça?
C'est fini, oui, il reste encore du pain blanc. On trouve encore de la baguette à 40 centimes, mais ça, il faut...
Et elle est même majoritaire, je crois, encore. Hein. C'est quand même ce que les Français achètent le plus.
Parce qu'une baguette à 40 centimes, vous, en définitive, vous la payez trois fois. Vous la payez une première fois chez le soi-disant boulanger. Vous la payez une deuxième fois parce qu'elle va vous rendre malade, donc il faudra payer le médecin. Et vous allez la payer une troisième fois parce qu'il faudra... avec l'argent de vos impôts, nettoyer les saloperies qu'on a remis dans la terre. Parce que c'est des farines qui seront vraiment néfastes, hein, on le sait. Donc, tous ces gens qui arrivent et de reconversion, moi, dans mon équipe, j'ai deux personnes qui reviennent, qui sont de reconversion, et ils sont vraiment très passionnés.
Oui, et vous défendez, vous mettez en avant la tradition boulangère. Juste un mot sur la définition de la tradition boulangère, Joël Desfils.
Alors, la tradition boulangère, c'est quoi? C'est de la fermentation longue, soigner le pain, parce que comme vous le disiez à juste titre tout à l'heure, le Français consomme moins de pain aujourd'hui, c'est aux alentours de 95 grammes par personne, donc c'est pas énorme, hein. Et donc, il faut autant le valoriser et soigner comme il le faut. Et il y a aussi une éducation aux enfants à porter. Je pense que dans donner du bon, maintenant les gens sont aussi attentifs à leur santé, manger moins, mais de meilleure qualité. Voilà.
Erwan Blanche, à l'instant, Joël Defive parlait du temps, de la durée de fermentation comme étant l'un des secrets. Il y en a peut-être un autre, c'est le levain. Le levain, on l'a vu d'ailleurs pendant le confinement numéro 1, le levain a été testé, éprouvé, expérimenté par un certain nombre de Français. Vous êtes adepte du levain naturel et d'ailleurs vous revendiquez aussi une fabrication 100% artisanale. Ça veut dire quoi précisément ça, le levain?
Le levain, ça en revient à ce que vient de dire Joël, c'est une méthode de fermentation, c'est un... dans laquelle est-ce qu'on est amené et obligé de prendre le temps de faire les choses correctement, que les farines, le gluten aient le temps de bien travailler correctement pour faire un produit qui soit beaucoup plus agréable à manger, et qui ait plus de goût, plus de caractère, plus digestible, plus de conservation. Enfin, ça mène que des bonnes choses. Et c'est la méthode traditionnelle, quoi, de fermentation que l'on a sur le pain. Et ça permet, ça a que des avantages. Et oui, nous, c'est un monde qu'on a découvert et qui est ultra passionnant.
Marie-Christine Arakinghi.
Oui, je voudrais ajouter un peu d'eau au moulin. Déjà, on a maintenant une grande diabolisation du pain blanc à cause justement des tendances qu'il y avait jusqu'à une quarantaine d'années de pain surpétri, de baguette à 40 centimes, de pain très très mou qui ne se conserve pas, qu'on doit racheter éternellement le lendemain. Et ça rend compliqué le fait de ramener les gens à la baguette, parce que maintenant, c'est un produit qui est mal vu par tous ceux qui commencent vaguement à s'intéresser à la nutrition, alors une bonne boulangerie, ça démarre aussi par une bonne baguette. Et c'est très important de la remettre au centre de la table. Et je pense qu'à Paris, la baguette de tradition est maintenant très en vogue, très développée. On la trouve vraiment dans toutes les boulangeries. À Marseille, c'est pas encore le cas. Et dans les provinces françaises non plus. En fait, on mange du mauvais pain encore dans beaucoup trop de régions. Et on ne connaît pas la baguette de tradition, la baguette qui est à plus d'un euro, qui est faite au levain, qui est façonnée à la main, qui se conserve et qui est super digeste, quoi.
Cheval de file.
Moi, je milite pour la réhabilitation de la baguette.
Oui, bien sûr. De toute façon, une belle boulangerie, c'est quoi? Une jolie baguette, un joli croissant. Voilà, ça, c'est les bases. Si vous avez ça, tout le reste, eh bien, c'est des valeurs ajoutées.
Et une bonne baguette, c'est quoi?
Une belle baguette, une bonne baguette, c'est une baguette...
Vous en avez apporté, hein?
Oui, bien sûr.
Une baguette de tradition?
C'est une baguette de tradition, bien entendu. Hein, je ne fais que de la tradition en baguette. C'est une label rouge à CRC, ça veut dire avec une culture raisonnée. Donc c'est même mieux que le bio, hein, parce que c'est vrai qu'on, je travaille beaucoup les farines bio, mais pas que le bio. Ça, c'est meilleur que du bio.
Pourquoi?
C'est meilleur que
en
du bio parce que là, c'est contrôlé. Le paysan, l'agriculteur est contrôlé aussi à la source. Ce sont des blés franciliens. C'était broyé ici, dans la région parisienne. C'est une fermentation longue avec du levain, bon, du levain liquide, mais ça, c'est un peu notre jargon. Et une fermentation longue.
C'est quoi la différence entre levain et levure?
Il y a l'origine de la fermentation, bien entendu, c'est le levain naturel. Le levain naturel a été abandonné. Pourquoi? Ben, parce qu'on a eu deux guerres mondiales. Le pain était la première nourriture pour le français. Donc on l'a remplacé fin des années 1890 par de la levure industrielle. Il ne faut pas avoir peur de la levure industrielle. Ce n'est pas une mauvaise chose. De toute façon, ce sont les mêmes ferments. Hein, ce sont des ferments qu'on aura récoltés dans du levain naturel et qu'on aura reproduit industriellement. Si on en met une toute petite dose, ce n'est pas, pas gênant. Pour vous donner un peu un exemple, dans un gramme de levain naturel, il y a plusieurs milliers de cellules, parce que c'est quelque chose de vivant. Hein. Dans un gramme de levure industrielle, il y a 12 milliards de cellules. Donc la fermentation n'est pas la même, elle est trop rapide. Le levain naturel, lui, va aller beaucoup plus lentement, il va dégrader l'amidon beaucoup plus en profondeur, il va donner de la souplesse aux protéines, il va rendre les protéines, le gluten, beaucoup plus digestibles. Ça, c'est important.
Oui, ça, c'est important et ça dépend peut-être de la farine. Parce qu'on a dit, la base, c'est la farine, c'est le levain.
De toute façon, le choix des matières premières est fondamental. Après, il faut un bon artisan, mais sa matière première doit être choisie.
Oui, parce que farine, levain, sel, eau, ça peut faire un très bon pain, comme ça peut faire un mauvais pain. Vous avez dit, l'un des secrets de la fabrication, c'est le temps de fermentation, la durée de fermentation, mais à la base, il y a quand même le choix de la farine. Et tous les trois, il me semble que vous choisissez vraiment très finement, très subtilement vos farines. Erwan Blanche, vous avez des farines brutes, des moulins de Chars, de Chérisy et de Brasseuil.
Exactement, ouais. C'est-à-dire que nous, on a fait le choix quand on a démarré. Alors, on a découvert bien sûr le monde de la boulangerie. On avait déjà quand même eu quelques expériences, etc. Mais on a été super étonnés quand on a démarré, nous, de voir que ce que la plupart des moulins mettaient en avant à revendre aux artisans boulangers, c'était des farines avec des améliorants, des adjuvants, des mix tout préparés, etc.
Participe de l'augmentation de l'intolérance au gluten.
Bah évidemment, ça c'est inoubliable. Enfin, ça va avec quoi. C'est un produit semi-industriel qui arrive en fait, qui arrive chez les artisans. Et quand nous on a commencé à dire, bah non les gars, votre catalogue c'est sympa, qu'est-ce que vous avez en farine? Donc les gars, même eux étaient étonnés de que nous on considérait pas ça comme des farines quoi. Ce qu'on veut nous, c'est une farine brute. Brutaire, que juste du blé qui a été moulu, basta, sans rien d'autre dedans et que du blé quoi.
Marie-Christine Aractinghi, vous aussi, c'est que du blé. Vous travaillez avec un meunier qui, je crois, se situe entre Aix et Arles. Rappelons
oui,
que vous
exactement.
Êtes à Marseille hein, pour Dame Farine.
Oui, oui, je travaille avec un petit meunier local qui a un moulin à eau. Et comme le disait Erwan, qui travaille des farines 100% céréales. Il n'y a pas de gluten ajouté, de lécithine de soja, d'acide ascorbique, d'amylase fongique ou que sais-je. Et je reçois la visite de beaucoup de commerciaux qui effectivement viennent me présenter des mix de farines en me disant mais c'est bio par exemple. Peu m'importe que ce soit bio, si c'est un truc déjà du bio de je ne sais où en Europe et truffée d'additifs, quoi. Il faut vraiment apprendre à retravailler la farine pure avec cette longue fermentation au levain qui permettra, même si on n'est pas, par exemple, en pur blé ancien, puisque c'est en train de redevenir tendance, de devenir tendance du moins, même si on ne travaille pas en pur blé ancien, avec un bon travail de fermentation et une attention portée à sa matière première de base, et ben on arrive à un produit hyper digeste, même pour des gens qui se croient intolérants au gluten parce qu'ils ballonnent quand ils mangent une baguette pourrie, quoi.
Joël Defive, c'est une mode, les farines anciennes? C'est vrai que ça revient au goût du jour. Est-ce que ça a du sens?
Oui, ça a du sens. De toute façon, la boulangerie, c'est un métier qui est entre la tradition et le modernisme. Il y a des choses qui s'abandonnent, qui reviennent. Alors pourquoi on a arrêté ces blés anciens qui étaient utilisés avant? Tout simplement parce qu'il y avait moins de rendement, tout d'abord. Ouais. Et puis, c'était aussi des blés qui prenaient d'autres maladies. Donc, on les a stoppés.
Et on essaye de les retrouver, voilà, aujourd'hui, pour retrouver ce bon pain d'antan. On va le goûter, enfin en tous les cas vous allez nous présenter, parce que tous les deux, Erwan Blanche, c'est dommage que vous ne soyez pas avec nous, Dame Farine, mais Erwan Blanche et Joël Defive ont étalé un certain nombre de pains de leur fabrication sur la table. On va laisser passer la madeleine de Matteo Caranta et on va revenir sur ces pains. Il est 12h16 sur France Culture.
Je voudrais une croissant.
Ouais.
Je veux trouver une croissant, juste y enchanter. Ah, j'arrête de partir. Baguette. Baguette.
Le petit plaisir de June Lopère pour passer à la madeleine. Matteo Caranta, c'est à vous.
Oui, moi j'ai rencontré Olivia Ruiz, c'était il y a quelques semaines au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. L'auteur, compositrice, interprète d'origine espagnole y présentait la première de Bouche Cousue, un spectacle qui plonge dans l'histoire de sa famille venue pendant la guerre d'Espagne. Une histoire pleine de silence et de non-dit qu'elle explore en interprétant des chants partisans républicains ou des mélodies qui ont marqué son imaginaire et son enfance. Un spectacle qui sera partout en France en tournée. Vous trouverez évidemment les dates sur la page de la madeleine. Madeleine, justement, est pâtissière à défaut d'être boulangère. Mais on la retrouve souvent sur les étals. Il s'agit du flan, bien évidemment.
Ma madeleine, c'est le flan aux œufs et au caramel de ma grand-mère Rita. C'est un flan qu'elle faisait pendant toute mon enfance et qu'on lui réclamait quand elle ne le faisait pas spontanément le dimanche. Et ce flan, j'essaye de le refaire depuis plusieurs années en essayant de retrouver ce qui est un défaut pour les chefs, mais qui pour moi donnait la texture si particulière à ce flan, et c'était les petits trous. Il y avait des petits trous à l'extérieur et même parfois à l'intérieur, et ça donnait vraiment une consistance très particulière. Ce flan, il est démoulé de son plat en fer. Quand il est démoulé, le caramel coule par-dessus, presque liquide, et vient l'enrober et justement s'engouffrer dans tous les petits trous qui font sa texture si particulière. Quand on met une cuillère dedans, c'est pas comme un flan industriel. Il y a de la consistance, c'est épais, c'est lourd, ça n'a rien de léger, c'est quelque chose de chaleureux, de maternel. Alors c'est un flan qu'on réclamait souvent pour le déjeuner dominical, qu'on faisait qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente chez mes grands-parents. Et c'est vrai que tout de suite, dès que je pense à lui, je vois apparaître l'énorme buffet dans lequel mon grand-père nous mettait nos opinels. On avait chacun des petits-enfants un opinel dès qu'on était en âge d'avoir un couteau. Et c'était un moment assez magique quand on passait à table et qu'il ouvrait ce tiroir pour nous donner nos opinels comme si on était des grands. Quand on a été un peu plus grand, mon grand-père nous servait un vermouth qui était son petit péché mignon. Il y avait ce flan aux œufs qu'on espérait pour le dessert. Il y avait souvent la canette aux pêches qu'on réclamait aussi pour avoir le menu de nos rêves complet. Et dès que je peux manger un flan avec ses petits trous, tout de suite l'image de ma grand-mère dans sa cuisine me revient. Donc voilà, je crois que dès que j'aurai le goût de ce flan ou cette texture en bouche, je verrai apparaître toujours ma grand-mère.
Eh bien, nous allons rester sur cette texture en bouche, non pas pour goûter des flans, mais pour goûter des pains que nous ont apportés nos deux invités ici en studio. À quoi reconnaît-on un bon pain? J'ai l'impression qu'on peut déjà dire que c'est à la croûte, Erwan Blanche.
Ouais, surtout pour tout ce qui est pains spéciaux, ça va être une belle coloration, une belle caramélisation, une croûte qui brille aussi, c'est assez révélateur d'une belle fermentation, clairement, parce que quand on commence à avoir des croûtes très ternes, etc., en général, il faut commencer à s'inquiéter. Ouais.
Bon, là, elles ne sont pas ternes du tout, vos croûtes. Vous avez disposé quelques-uns de vos pains phares de la boulangerie Utopie à Paris, où vous faites des pains traditionnels et des pains du week-end. Le pain du week-end, c'est quoi, là, en ce moment?
Ce week-end, on a fait un pain banane, cannelle et gingembre.
Tiens donc.
Voilà.
Ça marche bien. On va goûter, n'est-ce pas, Mathéo? On va goûter ce pain. Vous faites l'authentique aussi, Erwan Blanche. C'est quoi l'authentique?
Alors, l'authentique, c'était l'une de nos premiers pains, en fait. L'objectif, c'était de vraiment recréer le pain comme on pouvait l'avoir autrefois, où les gens venaient à la boulangerie acheter du pain pour quasiment une semaine. Donc, c'est un énorme pain et qu'on va vendre, en fait, à la coupe où chacun va pouvoir prendre la taille du morceau qui lui correspond. Et c'est vraiment un pain d'une simplicité, tout ce qu'il y a de plus simple. Ça va être une farine T65 bio, du levain naturel et du sel de Guérande.
Avec une mie qui est très aérée.
Qui est très grasse, très aérée et une croûte bien colorée, ouais.
Et par ailleurs, à Erwan Blanche, votre truc à vous, c'est le sésame et le charbon végétal. Vous faites une baguette au charbon végétal, c'est-à-dire qu'elle est toute noire.
Ouais, exactement, ouais. Alors ça, ça a été vraiment, bon, les gens apprécient beaucoup pour le côté très visuel de ce pain qui peut être un petit peu déstabilisant quand c'est la première fois qu'on le voit, mais ça amène pas ni de goût, ni quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, nous, on a créé ça pour se marrer au départ et on a été hallucinés de voir l'engouement derrière ce produit-là, quoi.
Marie-Christine Arachtinghi, vous avez, je crois, la semaine 8 variétés différentes dans votre boulangerie de Dame Farine à Marseille. Et le samedi, vous vous lâchez, ça veut dire quoi?
J'ai dit ça, le samedi.
Ouais.
En semaine, effectivement, j'ai les clients du quartier, donc je garde des produits plutôt traditionnels. Et le week-end, il y a tous les gens qui viennent de loin, qui prennent le temps de venir. Donc là, on met la dose en spéciaux, quoi. C'est là qu'on peut s'amuser, qu'on peut créer... et qu'on peut aller dans les innovations les plus folles, ce qu'on ne pourrait pas trop faire en semaine.
Et vous, Joël Defive, vous avez des pains très particuliers que vous en avez apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Joël Defive, ça va être dur. Mais on va commencer par le pain phare, le pain
le plaisir de partager le pain, ça se partage. J'ai amené le Baptiste, qui est un pain qui est fabriqué graines de courge, un blé CRC et de la mélasse de canne à sucre. Donc c'est quelque chose un petit peu plus foncé. Ensuite, un pain au petit épeautre au complet, hein, qui est en moule parce que comme il contient peu de gluten. Un pain au maïs avec un joli croûtage.
Ça aussi c'est important, la croûte. Voilà. Hein, vous confirmez ce qu'elle
dit. Oui, le visuel, on achète d'abord un produit
avec les yeux,
avec les yeux, et puis ensuite à la dégustation, bien entendu. La tourte, une tourte de meule type 110, riche en fibres, qui a remporté le 6e prix national du pain bio. Le baroudeur, qui est un pain aux fruits, un pain au sarrasin.
Et vos baguettes.
Et
alors vos
baguette,
elles sont pas à 40 centimes, elles sont à combien vos baguettes? Est-ce que c'est accessible?
Ah oui, un 20.
1,20€.
1,20€ pour une baguette de tradition.
Très honnête.
Label rouge, CRC. Mm.
Donc ça veut dire aussi que c'est pas qu'un truc de bobo, la néo-boulangerie.
Non, la boulangerie doit rester,
pour moi, le
pain doit rester abordable,
accessible
à tout le monde, parce que c'est l'alimentation de base et c'est quand même l'identité française.
Erwan Blanche.
Exactement, non, je suis entièrement d'accord, rien à rajouter. Le pain, c'est un savoir qui est typiquement français. Nous qui avons beaucoup voyagé avec Sébastien, à chaque fois qu'on disait qu'on venait de France, qu'on était pâtissier, on nous parlait toujours du pain, du pain, du pain, du pain. Aujourd'hui, le pain s'est énormément exporté à l'étranger. Donc on va trouver maintenant du bon pain quasiment partout, mais c'est un savoir-faire qui est français.
Oui, et pourtant il y a de moins en moins de boulangeries dans les villages. C'est aussi ce que nous disait Marie-Christine Arachtinghi tout à l'heure. C'est difficile de trouver parfois, dans certains territoires, dans certaines régions de France, des boulangeries, des commerces de proximité dont vous êtes les porteurs.
Mais des fois, on a des pépites quand même.
Mais le consommateur doit jouer le jeu aussi, hein. Il faut aussi que tout le monde, enfin, le consommateur aille chez les commerçants locaux, parce que s'ils vont tous au supermarché, forcément, le petit commerce disparaît.
Alors, il y a les supermarchés, il y a la boulangerie ou pâtisserie, et puis il y a des boulangeries un peu particulières. C'est le cas, par exemple, d'une boulangerie qui est en fait une librairie, mais qui fait des pots de pain, Albertine. Elle est à Concarneau et nous sommes avec Anne Morin-Audebrande. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez donc installé à côté des livres un comptoir de boulangerie.
Absolument.
Et parce qu'il y a à Concarneau, ça manquait d'une boulangerie.
Ah ben cruellement, absolument. Même en boulangerie traditionnelle, il y en a très très peu. Boulangerie traditionnelle, on va dire d'assez faible qualité, si je peux me permettre. Je vais pas me faire bien voir, mais tant pis. Il y en a très peu, en tout cas, très peu d'offres. Et voilà, et on a eu cette idée-là de lier la librairie avec une boulangerie dont le fournil se trouve à Banalec. La boulangerie s'appelle Facteur Mouton et ils vont rejoindre la librairie fin novembre à l'occasion de l'ouverture d'un deuxième lieu, d'une deuxième librairie, d'un deuxième local.
Et n'importe quel pain, puisqu'il est alimenté par des paysans boulangers. Donc il y a une démarche aussi militante de votre part.
Absolument, une démarche totalement militante de notre part. Nous, on soutient absolument ce type de boulangerie, ce type de fabrication de pain, cette passion qu'il véhicule. Et puis c'est des amis, à la fin du confinement de 2020, en fait, ils ont perdu leur place au marché et ils nous ont demandé s'ils pouvaient faire un petit dépôt de pain dans la librairie. Et là, on s'est rendu compte de l'évidence, en fait, de relier le livre et le pain.
Pourquoi ça s'associe bien, livre et pain?
Ah ben complètement, ça s'associe de manière assez naturelle. En fait, nous, en tant que librairie, on a souvent, on bénéficie ou on pâtit plutôt d'une vision un petit peu élitiste, la petite librairie indépendante, un peu intello, etc. Et le pain dans la librairie crée complètement autre chose, c'est-à-dire l'accès, l'aspect populaire, accessible à tous, le produit quotidien du pain. Et on a trouvé que ça marchait super bien. Et puis pour les boulangers, de l'autre côté, je pense que l'alliance de la librairie, ça leur permet aussi d'insister sur la dimension vraiment culturelle, politique même, de la fabrication artisanale du pain telle qu'ils la font.
Le pain attire-t-il de nouveaux clients, Anne Morin-Audebrande, dans la librairie?
Je pense, oui, je pense absolument. Et des gens qui viennent pour d'autres raisons et qui ont vraiment envie de trouver quelque chose de simple et qui restent à la librairie et qui consultent aussi des livres. Et puis les gens de la librairie qui disent « mais c'est génial d'avoir du pain à disposition et de pouvoir acheter les deux ensemble », ça marche complètement. Voilà, et on aime bien cette idée de réconcilier... l'activité intellectuelle et l'activité manuelle, de réconcilier un peu l'esprit et la main qui ont tendance à être bien, bien séparés.
Erwan Blanche, chez vous aussi, à Utopie, on peut acheter un livre que vous vendez, qui est le vôtre en fait. Alors c'est pas forcément des romans
édités par ailleurs.
C'est un peu de l'autopromo.
Oui, c'est ça exactement. Ouais.
Mais votre livre 80 recettes faciles et créatives des boulangeries et pâtisseries avec Sébastien Bruno et évidemment des recettes qui vous feront rêver, dites-vous sur votre livre. Un grand merci à tous les quatre donc d'avoir participé à cette émission. Alors Dame Farine, c'est 77 avenue de la Corse à Marseille. Utopie, c'est 20 rue Jean-Pierre Timbon à Paris. On va attirer encore un peu plus de monde, alors qu'il y a déjà pas mal de queues. C'est la même chose chez vous, chez Baptiste, 17 rue des Moines à Paris, Joël Defive. Et Albertine, donc, c'est 5 rue des Écoles à Concarneau. Sur le site, on mettra les adresses et on mettra une bibliographie, comme par exemple l'école de la boulangerie 80 pains et viennoiserie par l'école Le Cordon Bleu, le livre du boulanger paysan Roland Feuillas à la recherche du blé vivant chez Actes Sud, et puis une exposition que je vous signale au FRAC Provence qui s'intitule Copain, qui est faite par deux artistes suisse, Gerta Steiner et Jörg Lenzlinger. Elle est jusqu'au 16 janvier 2022. Et l'idée, c'est un hymne au pain et à celles et ceux qui le fabriquent, c'est-à-dire vous, boulangers, boulangères, qui êtes venus participer aux bonnes choses ce midi. Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France avec l'équipe Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Matteo Caranta, June Lopère et notre technicien du jour, Félix Delacour. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des temps par Marc Weitzmann.